Nous avons oublié que les hommes de ces générations considéraient que la meilleure façon de sortir des violences d'un passé conflictuel, c'était de les oublier. Et longtemps dans l'histoire, on a considéré en effet qu'il fallait oublier les violences du passé, pour permettre aux ennemis d'hier de se réconcilier et de reconstruire l'unité ou de la cité ou du royaume ou de la nation, ici peu importe. Alors je prendrai deux exemples. Le premier exemple est donné par le philosophe Aristote dans un texte qu'il a consacré à la constitution d'Athènes. En 404 avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes se déchirait dans une guerre civile qui opposait les partisans de l'oligarchie et ceux de la démocratie. Ces derniers l'emportèrent en 404. La démocratie fut restaurée et chacun des citoyens fut alors convié à faire le serment devant les dieux que personne ne devrait revenir sur le passé sous peine des malédictions déchaînées par le parjure. Oublier les événements de la guerre civile signifie ici, bien sûr, s'interdire de les rappeler. Le rappel du passé est une menace pour la cité. Il risque de faire renaître la discorde. Le deuxième exemple est celui d'Édit de Nantes, promulgué en 1598 par le roi Henri IV, afin de mettre un terme à plusieurs décennies de guerre civile et religieuse entre catholiques et protestants. Et par l'article 1er de l'Édit de Nantes, Henri IV exige que la mémoire des choses passées, c'est-à-dire les violences de la guerre civile, je cite, « demeure éteinte et assoupie comme chose non advenue ». Il s'agit donc désormais que les Français vivent ensemble comme si rien ne s'était passé, en faisant silence sur les événements conflictuels du passé. En votant au début des années 50 des lois d'amnistie concernant les faits de collaboration, les parlementaires s'inscrivent donc dans une longue tradition. Ceux qui ont voté ces lois, d'ailleurs, ne peuvent pas être vraiment suspectés dans leur grande majorité d'avoir nourri une quelconque complaisance à l'égard du régime de Vichy, puisqu'ils appartenaient, ils appartiennent à des partis politiques issus de la résistance. Comment donc, dès lors, expliquer qu'on en vienne, à partir des années 70, à une condamnation d'oubli et à la prescription d'un devoir de mémoire? Pourquoi l'oubli devient-il coupable? Et pourquoi aussi, comme on va le voir, devient-il impossible? Pourquoi la mémoire devient-elle une obligation? Alors, c'est cette question que je voudrais examiner en m'appuyant principalement sur la lecture de deux textes. Le premier, c'est la conférence prononcée par Ernest Renan en 1882 à la Sorbonne. Elle a pour titre « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et puis le deuxième, eh bien c'est le livre de l'historien Henri Rousseau, « Le syndrome de Vichy », paru en 1987. Alors, avant de voir pourquoi la mémoire des événements douloureux de notre histoire est préférable à leur oubli, demandons-nous quel est le type d'événement que la tradition vise à écarter de la mémoire commune et voyons exactement pour quelles raisons. Alors, la lecture de la conférence de Renan peut ici nous être très utile. Comme l'explique Renan, l'unité et l'identité d'une nation repose sur la mémoire d'un passé commun partagé par ses membres. Et c'est à cette mémoire commune que s'alimente leur volonté de continuer de vivre ensemble. Ainsi, une nation sans mémoire ne peut pas exister et ne peut pas se maintenir en vie. Alors je cite ici un extrait de la conférence d'Ernest Renan, extrait assez célèbre, que vous l'avez parmi les textes, hein. Une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constitue cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis, je vais un peu plus loin, l'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Fin de citation. Alors, pour désirer poursuivre donc la vie commune, pour maintenir le lien, il est donc nécessaire, je reprends la formule de Renan, de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Et cette mémoire commune qui unit les membres d'une nation est avant tout une mémoire affective qui est nécessairement sélective. Les membres d'une nation se souviennent des gloires du passé et aussi des épreuves communes qui les ont rapprochés, mais ils oublient en même temps les violences qui les ont opposées. Or, de telles violences ont nécessairement eu lieu. Elles font nécessairement partie du processus d'unification des nations. Elles accompagnent nécessairement les crises qu'elles ont traversées. Et Renan prend l'exemple de la France, dont l'unité s'est construite à travers des crises violentes. Il fait notamment allusion à la croisade menée par le roi de France contre les Albigeois au XIIe, XIIIe siècle. Cette croisade a permis d'unifier le Nord et le Sud au prix d'une extermination, d'une terreur exercée pendant plus d'un siècle. On pourrait citer également les guerres civiles qui ont opposé catholiques et protestants et qui ont ravagé la France dans la seconde moitié du XVIe siècle, celle dont parle Montaigne. Ainsi, pour préserver l'identité et l'unité d'une nation, il paraît nécessaire d'exclure le souvenir des pages noires du passé où se sont affrontés ces membres. Le sentiment national a besoin pour se perpétuer d'une version idéalisée du passé commun, d'où elles sont absentes. Et de ce point de vue, écrit Renan, l'oubli est une bonne chose. Je cite Renan, c'est en le deuxième texte de Renan que je cite. L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un fardeau essentiel de la création d'une nation. Alors, ce recours à une histoire lacunaire, erronée sur bien des points, consolide ainsi le tabou de la violence entre les membres de la nation et contribue par là, bien sûr, à renforcer l'identité nationale. Et de ce point de vue, les études historiques paraissent dangereuses à Ernest Renan, surtout lorsqu'elles jettent un éclairage sur les conflits à travers lesquels la nation s'est construite. Ces études sont dangereuses car elles risquent de réouvrir la plaie qui n'est peut-être pas encore cicatrisée. En montrant l'aspect lacunaire de la mémoire commune, elles risquent également de ruiner les mythes nationaux sur lesquels elles reposent. Et c'est pour cette raison que l'histoire doit être enseignée à tous les écoliers de France sous la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. L'histoire qui doit être enseignée donc à ses enfants doit chercher avant tout à entretenir un rapport idéalisé au passé de la nation. Et c'est l'objectif assumé par le rédacteur des manuels d'histoire au début du XXe siècle, l'historien Ernest Lavis, dont le but était, je cite, de réconcilier les Français entre eux en produisant un récit national qui fédère l'Ancien Régime et la Révolution française. Il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, la République française est toute neuve. Hein, et il y a encore en France beaucoup de monarchistes. Alors, tant que l'histoire a pour fonction et de conforter la mémoire commune et de renforcer le sentiment national, elle ne peut pas prêter beaucoup d'attention aux épisodes conflictuels qui ont divisé la nation. Mais après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où le sentiment national s'affaiblit en Europe, où les nationalismes sont mis en cause, l'histoire peut désormais s'affranchir de la mémoire et devenir pleinement une discipline critique, et mieux encore, à partir des années 80, elle fait de la mémoire un nouveau champ d'étude. Elle va s'intéresser à la représentation que les hommes ont de leur passé, et elle va faire l'histoire de la mémoire qu'ils ont de leur passé, puisque cette mémoire peut évoluer dans le temps. C'est ainsi qu'Henri Rousseau, j'y viens, fait paraître, donc, en 1987, un livre qui a pour titre « Le syndrome de Vichy ». En parallèle à l'histoire de Vichy, il s'agit, comme il l'explique dans la préface de son ouvrage, il s'agit de construire une autre histoire, celle de son souvenir, de sa rémanence, de son devenir après 1944. Donc, en étudiant l'histoire du souvenir de la période de Vichy, eh bien, Henri Rousseau pourra montrer pourquoi et comment ce souvenir survit et se transforme selon les conjonctures. Il sera ainsi possible de voir si une politique de l'oubli, passant notamment par des lois d'amnistie, est véritablement efficace pour résorber les séquelles de ce qui a été une véritable guerre civile et qui a laissé un traumatisme. Alors, l'intérêt, justement, de la lecture de l'ouvrage d'Henri Rousseau, c'est d'abord de montrer le caractère illusoire de la solution traditionnelle. C'est-à-dire qu'il est illusoire de penser qu'on peut effacer un épisode douloureux et conflictuel comme celui de Vichy pour reconstruire l'unité nationale par des lois d'amnistie, par un silence officiel. Et cet épisode, en effet, a laissé un véritable traumatisme dont les séquelles sont durables. On aura beau tenter de le faire disparaître par un silence officiel, il survit. Il est toujours présent dans la mémoire et les préoccupations des Français d'après-guerre. Il continue d'agir et de peser, alors même que l'événement est pourtant depuis longtemps disparu. Si les années 40-44 ont engendré un traumatisme, c'est parce qu'elles ont constitué, selon les termes d'Henri Rousseau, je cite, « une tragédie d'une exceptionnelle gravité ». Alors ici, il faut que je rappelle les faits essentiels. Vous les connaissez, mais bon, il faut quand même le faire. Vous avez d'abord la guerre de 1940, qui est désastreuse, puisqu'en quelques mois, elle fait 3 mois, elle fait 90 000 morts, 2 millions de prisonniers. La défaite militaire est écrasante, inattendue. Les Français croyaient avoir l'armée la plus puissante du monde. Et cette défaite abat une puissance impériale et un État qui apparemment était solidement constitué. En quelques semaines, tout s'est effondré, l'ensemble des structures du pays, les élites militaires, les élites politiques. Et pendant quelques semaines, les autorités semblent avoir disparu entre Bordeaux et Vichy. C'est là un fait sans précédent dans l'histoire des États contemporains. Le 10 juillet 1940, les parlementaires français réunis au casino de Vichy signe l'acte de décès de la Troisième République et y vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La République est supprimée, l'armistice est signé et on passe à l'État français qui va entrer assez rapidement dans une politique de collaboration avec l'occupant allemand. Le territoire français est divisé en 2 zones. La zone nord est directement sous occupation allemande, contrairement donc à la zone sud. Il y a enfin et surtout, c'est ça que retient Henri Rousseau, il y a surtout ce qu'il appelle une guerre civile, à partir de l'année 40. Et c'est cela qui va surtout laisser des séquelles. Alors le terme peut paraître excessif, car bien sûr, il n'y a rien de comparable entre ce qui se passe en France puis ce qui s'est passé en Espagne à partir de 1936. Mais si Henri Rousseau assume le terme de guerre civile, c'est pour souligner le caractère meurtrier, radical, des conflits qui opposent les Français pendant toute la période 40-44. Et cette période est caractérisée par une multiplicité de conflits internes qui se superposent les uns aux autres. À partir de l'armistice de 1940, on assiste donc à une division entre deux camps, celui de la collaboration, à des degrés divers et variables, bien sûr, hein. Et puis il y a celui de la résistance, qui au départ est peu importante, et puis qui est très hétérogène. L'épisode de Vichy réactive par ailleurs d'anciens conflits, celui qui a opposé naguère les Dreyfusards aux anti-Dreyfusards, au début du siècle. Et à travers l'affaire Dreyfus, il y avait déjà une lutte menée par les monarchistes et tous ceux qui étaient hostiles à la République contre les institutions républicaines. La période de Vichy réactive aussi de cette manière l'antisémitisme français qui s'exprimait fortement lors de l'affaire Dreyfus, puisque Dreyfus, c'est ce capitaine juif qui était soupçonné d'avoir été un traître. Antisémitisme nationaliste, pour lequel le juif, c'est avant tout l'étranger inassimilable qu'il faut exclure, qui se distingue de l'antisémitisme nazi, pour lequel les juifs sont les ennemis de la race aryenne et contre lesquels il faut mener un combat mondial et un combat d'extermination. En promulguant dès l'année 40 un statut des juifs, très vite, qui les exclut de la fonction publique et de nombreuses professions, le maréchal Pétain ne se soumet aucunement à un ordre venant des Allemands. Il met en œuvre la doctrine antisémite de son régime. L'épisode de Vichy réactive encore les conflits sociaux qui se sont joués en 1936, et par bien des aspects, le régime de Vichy est une revanche contre le Front populaire. C'est un régime de nature fasciste qui met en place un État corporatiste. Les syndicats sont intégrés dans l'appareil d'État. Il faut enfin mesurer la violence de la guerre fratricide qui a lieu pendant toute cette période. Le régime de Vichy est très répressif. Il interne les réfugiés d'Europe centrale. Comme on l'a dit, il exclut les Juifs. Puis il contribue en 1942 à leur déportation dans les camps de la mort, 76 000 Juifs, dont 3% seulement reviendront, hein, seront survivants. Et puis il envoie encore 650 000 travailleurs en Allemagne au titre du STO, service du travail obligatoire. Le combat des résistants a lui aussi été violent, même si bien sûr c'est dans une moindre proportion. Et il y a d'abord l'épuration sauvage. Environ 10 000 personnes ont été exécutées en dehors des instances judiciaires légales du gouvernement provisoire à la fin de la guerre. Une bonne moitié tout de même de ces personnes exécutées l'ont été avant le 6 juin 1944, donc en pleine occupation. Quant à l'épuration par voie légale, sur les plus de 7000 condamnations à mort prononcées par les tribunaux, 767 ont été réellement exécutées, donc elle est moins violente. Tels sont les faits, hein. Il faut tout de même les rappeler, si on essaie donc de les résumer rapidement. Et donc leur évocation permet de comprendre pourquoi l'épisode de Vichy peut être qualifié de guerre civile et pourquoi il a engendré un véritable traumatisme. Comme on sait, les guerres civiles ont de tout temps été les plus dures à se résorber, car contrairement à la guerre contre un ennemi étranger, l'ennemi est un concitoyen qui reste sur le même sol après la guerre. Vont ainsi se trouver condamnés à se côtoyer dans le même village des hommes qui ont été arrêtés parfois sur simple dénonciation calomnieuse, et puis leurs voisins leurs voisins qui les ont accusés. Donc l'épisode de Vichy engendre un véritable traumatisme. Et un traumatisme, précisément, ça ne peut pas s'effacer. Ça ne peut pas disparaître grâce au silence officiel, grâce à des lois d'amnistie. Un traumatisme se répercute bien longtemps après que l'événement qui l'a produit a disparu. Alors un traumatisme peut être refoulé, mais il ne peut pas être effacé. Et loin de le faire disparaître, son refoulement, c'est ce que va montrer ici d'ailleurs Henri Rousseau, son refoulement permet sa survivance sous des formes morbides. Et Henri Rousseau parle à ce sujet du syndrome de Vichy. Alors, je vous ai photocopié le texte, vous verrez. Hein ? Il parle du syndrome de Vichy. Et je vous cite exactement ce qu'il entend par là. Hein, c'est ce qu'il écrit dans sa préface. Le syndrome de Vichy, écrit-il, est l'ensemble hétérogène des symptômes, des manifestations, en particulier dans la vie politique, sociale et culturelle, qui révèlent l'existence du traumatisme engendré par l'occupation, particulièrement celui qui est lié aux divisions internes, traumatisme qui s'est maintenu, parfois développé, après la fin des événements. Fin de citation. Alors, vous voyez, pour Henri Rousseau, la démarche de l'historien va s'apparenter ici à celle de Freud, le fondateur de la psychanalyse. Il va étudier les manifestations de la mémoire collective de Vichy et les transformations qu'elle va subir à partir de 1944, à la manière dont Freud aborde les symptômes d'une névrose. Alors, soyons clairs, je ne prétends pas ici, bien sûr, expliquer la mémoire collective de Vichy en psychanalyste, mais comme il le dit, il emprunte seulement à la psychanalyse ses concepts pour décrire la survivance du traumatisme et ses transformations. Et il utilise ainsi les concepts de névrose, de refoulement, de retour du refoulé, de travail de deuil. Il en est donc ainsi des manifestations, comme dit Henri Rousseau, des manifestations de la mémoire collective de Vichy, comme des symptômes d'une névrose. Alors, je rappellerai ici rapidement ce que dit Freud, des symptômes de la névrose, pour voir comment, ensuite, Henri Rousseau va appliquer la leçon de Freud à la mémoire collective de Vichy. Alors, au début de sa carrière, on sait que Freud s'intéresse au cas des hystériques. Alors, l'hystérie est une forme de névrose, une forme de névrose dont les symptômes sont très variés, aussi bien physiques que psychologiques, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et voici ce que dit Freud sur l'hystérie, à la fin de la première leçon sur la psychanalyse. Il écrit « Les hystériques souffrent de réminiscence. Hein, les hystériques souffrent de réminiscence. » Alors, de quoi s'agit-il ? Leurs symptômes, justement, sont des réminiscences. Non pas en ce qu'ils témoignent en toute conscience du passé traumatique qui les a engendrés, mais en ce qu'ils les commémorent inconsciemment. C'est-à-dire que, au fond, les symptômes de l'hystérique, ou du névrosé de manière générale, sont des réminiscences qu'il ne faut absolument pas confondre avec des souvenirs conscients. Le névrosé n'a aucune conscience des raisons pour lesquelles il souffre. Il ne sait pas que ses symptômes s'expliquent par la persistance en lui d'un événement passé qui l'a traumatisé. Il souffre d'un passé qui persiste en lui comme si ce passé était toujours présent. Et il en est dépendant précisément parce qu'il ne peut pas s'en souvenir et se trouve ainsi condamné à le répéter sans le savoir à travers ses symptômes morbides. La répétition du traumatisme par ses symptômes vient donc ici en lieu et place d'une véritable remémoration qui lui permettrait de se distancier du passé et de s'en détacher. Telle est la leçon de Freud. Eh bien, pour Henri Rousseau, on peut appliquer cette leçon à l'examen des survivances du traumatisme de Vichy dans la mémoire collective. Et plus précisément, il va montrer comment ce traumatisme persiste selon une évolution en quatre phases à partir de 1944 et consacre un chapitre à l'examen de chacune de ces phases. Alors la première phase, elle va de 1944 à 1954, c'est-à-dire au fond de l'épuration jusqu'aux lois d'amnistie, de 51 et 53. Cette phase, dit-il, c'est celle d'un deuil inachevé. Enfin, c'est sa formule. Alors pourquoi justement cette formule de deuil inachevé ? Eh bien, par référence à ce que Freud appelle le travail du deuil. Cette première phase est un deuil inachevé au sens où il s'agit d'un deuil qui n'est pas encore rentré justement dans le travail du deuil. Que se passe-t-il lorsque nous perdons un être cher ? Expliquons ce que Freud entend par le travail du deuil. La mort d'un être cher produit d'abord une grande souffrance. Nous nous refusons à admettre la réalité de la perte que nous venons de subir. Donc le travail du deuil fait que, ensuite, progressivement, avec du temps, sans cesser de chérir la personne défunte, nous finissons par accepter sa perte. Et ainsi, nous bénéficions d'un certain éloignement qui nous permet de tempérer notre douleur. Eh bien, on peut appliquer cette idée à ce qui se passe en France de 1944 à 1954. Dans ces années, le traumatisme est massif. La souffrance est encore trop vive pour entrer dans un travail de deuil. C'est pourquoi Henri Rousseau parle de deuil inachevé. Et qu'est-ce qui caractérise alors la mémoire nationale dans cette première phase ? Eh bien, elle s'organise autour du passé glorieux de la résistance et elle laisse dans l'ombre les victimes qui n'entrent pas dans cette configuration héroïque. C'est le cas des prisonniers de guerre et c'est surtout aussi le cas des Juifs, en particulier des rescapés du génocide qui arrivent à l'hôtel Lutetia à Paris, dont la voix se fait beaucoup moins entendre que celle des déportés résistants. À cette époque, les nazis sont présentés comme les seuls coupables des atrocités qui ont été commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème de la responsabilité de Vichy n'est pas évoqué. Le souvenir de la barbarie nazie s'incarne au Mont-Valérien, aucunement au Veldiv. On n'entend pas parler du Veldiv. Et il faut ici rappeler que dans les années 50, le Veldiv est détruit. La barbarie nazie est symbolisée par le camp de Buchenwald, aucunement par le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et à cette époque, on ne fait pas encore de distinction entre les camps de concentration et les camps d'extermination, comme on va le faire plus tard. La deuxième phase, qui va de 1954 à 1971, c'est celle qui s'ouvre après les lois d'amnistie. Elle permet à ce moment-là à d'anciens vichistes de revenir sur la scène politique, de se présenter comme des gens qui, à leur manière, ont résisté contre l'occupant allemand. Il y aurait eu ainsi un bon Vichy qui a servi de bouclier, qui a protégé les Français, quand en même temps, De Gaulle, lui, usait de l'épée en combattant directement les forces d'occupation aux côtés des Alliés. Hein, c'est la thèse du bouclier de l'été. Alors, dans l'ensemble, le souvenir de Vichy se fait moins conflictuel. Les Français semblent refouler la guerre civile qui les a opposés. Et ils sont aidés en cela par l'établissement d'un mythe qui va dominer plusieurs années la mémoire collective, qu'Henri Rousseau nomme le mythe résistentialiste. Le mythe résistentialiste. Alors, ce mythe se traduit de deux de deux manières. D'une part, il se traduit par la marginalisation de ce que fut le régime de Vichy. On en parle à peine. On minore ses responsabilités. Et puis d'autre part, il se traduit par une mythification de la résistance qui est assimilée à l'ensemble de la nation. Ce mythe était déjà présent dès la fin de la guerre dans les discours du général de Gaulle, mais à partir des années 50 jusqu'au début des années 70, il va dominer la scène. Le 25 août 1944, jour de la libération de Paris, le général de Gaulle pose d'emblée la première pierre du mythe résistentialiste. Son discours est célèbre, je vous l'ai photocopié. Il vaut d'ailleurs la peine d'être cité. Il est magnifique. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Discours. Drôlement bien dit, discours très éloquent, très étonnant et assez audacieux, si on regarde bien. À l'instar de Paris, le reste du pays, le reste de la France s'est libéré tout seul. De Gaulle n'évoque guère les alliés, il ne parle pas de la résistance, et encore moins des résistants. Le salut est venu de la France éternelle. Et comme il aura ensuite le soin de le préciser, le même jour, le 25 août, la résistance, dira-t-il, c'est celle du peuple français, de la nation tout entière. Ainsi, la défaite de 40, le gouvernement de Vichy, la collaboration, tout cela est mis entre parenthèses. Il déclare encore le 25 août 1944, je cite, « La République n'a jamais cessé d'être, Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. » Je reprends. « La République n'a jamais cessé d'être, Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. » Et pendant 20 ans, on ne parlera donc pas de Vichy, très peu. Et la seule action notable de la politique de De Gaulle en matière de mémoire, outre la célébration annuelle du 18 juin, eh bien, ce sera la cérémonie du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, en décembre 1964, accueilli par un grand discours d'André Malraux, « Entre ici, Jean Moulin ». Et pourquoi donc Jean Moulin? Parce que jusqu'alors, au fond, la mémoire de la résistance n'était pas unifiée. Chaque mouvement politique, chaque parti politique célébrait son propre héros résistant. Et Jean-Pierre Timbaud, c'était le héros résistant des communistes. Georges Polizère, également. Et Pierre Brossolette, c'était le héros résistant des socialistes. Et puis Henri Estienne-Dorff, c'était le héros résistant de la droite. Donc chaque mouvement avait, au fond, ses héros. Et si De Gaulle, à ce moment-là, privilégie justement la figure de Jean Moulin, ce n'est pas la figure d'un Jean Moulin mandaté par les divers mouvements de résistance qui lui avait demandé, au fond, de rencontrer le général de Gaulle et le reconnaître comme le chef de la France libre. C'est pas pour cette raison que Jean Moulin va être choisi, même si c'est un fait. Mais la figure de Jean Moulin va être privilégiée parce que c'est celle du Jean Moulin délégué par De Gaulle, chargé par lui de la mission de créer le Conseil national de la résistance. Au fond, c'est la figure d'un Jean Moulin adoubé par De Gaulle et chargé par lui d'unifier les forces de la France libre. Au fond, c'est son exécutant, si on veut dire, qui va être célébré. Donc lui-même, De Gaulle, se célèbre à travers les cendres de Jean Moulin, à travers le transfert des cendres de Jean Moulin. Alors il faut qu'une nouvelle génération apparaisse, il faut mai 68, il faut le départ, puis la mort du général de Gaulle, pour qu'advienne une nouvelle phase qui rompt avec le mythe résistentialiste et fait ressurgir le passé de Vichy. À partir de 1971, le souvenir des années 40 fait son retour. Et Henri Rousseau parle ici d'un retour du refoulé. D'un retour du refoulé, hein, expression tout à fait freudienne. Cette année-là est produit le film documentaire de Max Ophüls, Le chagrin et la pitié, qui provoque un véritable scandale. Ce film tourne le dos aux grandes reconstitutions épiques des années 60. Hein, vous avez au cinéma, vous avez plein de films qui célèbrent la résistance. Et c'est un film qui s'oriente vers la chronique. Il fait le récit de la vie quotidienne dans une grande ville de la zone sud, Clermont-Ferrand, pendant l'occupation. Alors à ce moment-là, le passé refoulé explose sur l'écran. On découvre brutalement tout ce qui avait été oublié, tout ce qui avait été occulté. On découvre qu'en zone sud, jusqu'en novembre 1942, les Allemands étaient très peu présents. On découvre le poids de l'antisémitisme dans une partie de la population et aussi au cœur de l'administration de Vichy. On découvre la réalité des années 40 dans toutes leurs zones d'ombre, dans leur lâcheté quotidienne. Alors évidemment, le chagrin et la pitié portent un coup au mythe résistentialiste. Pour le dire comme Henri Rousseau, il brise le miroir dans lequel les Français s'étaient jusqu'alors regardés. Le film est censuré. Il est accusé de donner une très mauvaise image de la France et des Français. C'est assez houleux. Toujours est-il, qu'il contribue à ouvrir un débat public sur le passé de Vichy, sur la collaboration, et bientôt aussi sur la responsabilité du régime dans la déportation de 76 000 juifs français étrangers dans les camps de la mort. Et je disais que 3% seulement y survivront. Alors évidemment, il n'y a pas que le chagrin et la pitié, il y a aussi le livre de l'Américain Paxton, sur l'histoire de Vichy, enfin il y a plein d'autres productions culturelles aussi qui s'ajoutent à ce que je viens de vous dire. Alors, le successeur du général de Gaulle, Georges Pompidou, eut beau exhorter les Français à l'oubli, cette exhortation parut inacceptable. Alors qu'on lui reprochait d'avoir gracié dans la plus grande discrétion un ancien responsable de la milice, Paul Touvier. Alors, qui est Paul Touvier? C'était un ancien chef de la milice de la région de Lyon, qui avait été condamné à mort en 1947, mais avait pu échapper à sa condamnation en bénéficiant de la protection d'une partie du clergé français qu'il avait caché. Donc, je reprends, c'est parce qu'on lui reprochait donc d'avoir gracié, au fond, très discrètement, presque en catimini, Paul Touvier, que ça fit scandale, et à ce moment-là, évidemment, Pompidou dut se justifier. Et il donna une conférence de presse en septembre 1972, dont je retiens ici un extrait qui me paraît très intéressant. Voici ce que dit Pompidou. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Et alors il cite ici la guerre de 40, la défaite, l'occupation, la libération, l'épuration et ses excès, c'est l'expression de Pompidou, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et pour ça, allons-nous éternellement entretenir saignantes les plans de nos... Excusez-moi, je reprends. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchirer et même s'entre-tuer. Fin de citation. Alors, vous voyez que cette déclaration est en plein dans le cœur du sujet. Mais désormais, est-il possible, est-il même souhaitable de jeter le voile, comme le dit Pompidou, sur un passé conflictuel et douloureux qui ne cesse de hanter la mémoire des Français? Toute la question est là. Ce qui est certain, c'est que la réaction de Pompidou va se retourner contre son intention. Loin de mettre un terme au souvenir de Vichy, son initiative aboutit à l'opposé, à faire naître la revendication d'une réouverture des dossiers dont on considère désormais qu'ils ont été trop vite fermés par les pouvoirs publics et par les autorités judiciaires. On va vouloir réouvrir le dossier Touvier, puis après Touvier, ce sera le dossier Louguet, puis le dossier Bousquet, et puis plus tard, le dossier Papon, je ne vais pas tous les citer. Dès lors, on passe dans une quatrième phase qui ne s'arrêtera plus, et qui est surtout caractérisée par le réveil de la mémoire juive qui va occuper un rôle central et qui va complètement transformer notre rapport au passé. Donc, cette quatrième phase donc, est caractérisée par le réveil de la mémoire juive, la réouverture de procédures judiciaires contre d'anciens nazis, d'anciens collaborateurs français, ayant échappé durant ces dernières décennies à toute justice, et puis la requalification de leurs crimes en crimes contre l'humanité. Et ça, ça change tout. En décembre 1964, lorsque les députés français votèrent une loi établissant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par le tribunal de Nuremberg en 1945 et la Charte des Nations Unies. Eh bien, ces députés pensaient à cette époque que l'application de la loi ne concernerait que des criminels nazis. Jamais l'éventualité d'une application de la loi à des criminels français, à des collaborateurs, ne les avait effleurés. Or, voilà que dix ans après, cette loi sera appliquée pour la première fois à des Français. Ça, c'est tout à fait nouveau. L'imprescriptibilité n'est pas seulement une question juridique, elle entraîne un véritable bouleversement culturel. Elle entraîne une rupture radicale avec la manière traditionnelle d'envisager les crimes du passé, puisque désormais, on considère que même si on les juge 40 ou 50 ans après, il y a des crimes qu'on ne peut pas oublier. Il y a des crimes qu'on ne peut pas oublier, dont il faut juger les responsables. Ce sont précisément les crimes contre l'humanité. Alors, quelle conclusion tirer de la lecture du livre d'Henri Rousseau ? La lecture de ce livre a l'intérêt de nous conduire à nous interroger sur le nouveau rôle que nous accordons à la mémoire. Et pour simplifier les choses, je répondrai à trois types de questions, si vous voulez, à trois questions. La première, ce sera pourquoi le devoir de mémoire nous paraît-il préférable au devoir d'oubli ? Bon, c'est la question qui était au départ de notre exposé. Ensuite, je me demanderai si l'expression « devoir de mémoire » est une expression qui convient vraiment. Et puis, troisième question, quel nouveau rapport au passé implique la valorisation que nous faisons aujourd'hui de la mémoire ? Alors, je serai assez rapide sur la deuxième pour ne pas être trop long. Concernant la première question, eh bien, je dirais la chose suivante. Si le devoir de mémoire nous paraît aujourd'hui préférable au devoir d'oubli, c'est d'abord parce que l'oubli est impossible et qu'il est impossible de le prescrire politiquement, officiellement, en croyant par là mettre un terme à un traumatisme comme celui qui a été engendré, par exemple, par l'épisode de Vichy. Car on a ici affaire à un passé qui ne passe pas. Et non seulement l'oubli est impossible, Mais sa prescription concernant les crimes du passé est inacceptable. L'oubli des violences et des crimes du passé est une autre violence qui s'ajoute à celles qui ont déjà été subies par les victimes. En organisant le silence et l'amnésie sur les crimes du passé, les lois d'amnistie n'apaisent pas. Elles ne jouent pas la fonction de réconciliation qu'on leur attribue. Elles perpétuent l'injustice. Toutefois, il faut ici distinguer deux types de lois d'amnistie qui sont radicalement différentes. Vous avez celle qui amnistie des peines et puis vous avez celle qui amnistie des faits. Ce n'est pas la même chose. Le pouvoir législatif, donc les députés à l'Assemblée, le pouvoir législatif peut juger qu'il est dans l'intérêt de la société d'amnistier des peines. Ce faisant, il suspend seulement leur exécution. Mais la justice a suivi son cours. La culpabilité des accusés et les violences infligées aux victimes ont été publiquement reconnues. C'est à ce type de loi d'amnistie que correspond la loi votée en 1951 par les députés français. Ils lèvent les peines des collaborateurs qui ont été condamnés à l'indignité nationale et à des peines de prison de moins de 15 ans. Ça, c'est la première loi d'amnistie en 1951. Et en 1953, ils votent une deuxième loi qui généralise l'amnistie à toutes les peines et met fin définitivement à l'épuration. Alors, comme on le voit, l'amnistie des peines n'est pas une forme d'oubli. Elle ne revient pas à oublier les crimes passés. Elle est, si on le veut, plutôt une sorte de pardon accordé par le pouvoir législatif. Ce premier cas est en tout cas à l'opposé de l'amnistie concernant les faits. Et ici, l'amnistie supprime et interdit les poursuites judiciaires. Les criminels ne sont pas inquiétés, puisque leur crime est annulé. La justice, dans ce cas-là, est placée hors circuit. Alors, à ce second cas, correspond l'édit de Nantes de 1598, dont le premier article prescrit de faire comme si la guerre civile, la guerre qui a opposé catholiques et protestants, n'était jamais advenue. L'amnistie, plus récemment, l'amnistie prononcée en Espagne après le franquisme est de ce type-là. Hein ? Et, ou celle aussi qui, à la fin de la guerre civile qui a ravagé l'Algérie dans les années 90, hein, elle est aussi de ce type-là. Hein. C'est fait comme si il n'y avait pas eu de crime. Il n'y a pas de criminel. Il n'y a pas à faire des. Il n'y a pas à envisager des poursuites judiciaires. On annule tout. Il est interdit de parler des faits amnistiés. Et donc, ici, effectivement, dans ce cas-là, vraiment, l'amnistie organise l'amnésie. Mais, on le sait bien, les faits ne peuvent pas être effacés. Et l'oubli du passé ne se décrète pas. Loin d'apaiser et de réconcilier, l'oubli imposé par l'amnistie institutionnelle peut au contraire alimenter l'amertume des victimes et puis aussi conforter les criminels. Les uns et les autres restent en tout cas figés sur leur passé, dans l'incapacité d'en faire le deuil, pour reprendre ici l'expression de Freud. Et dans une certaine mesure, ce que dit Freud ici du travail du deuil, eh bien, peut tout à fait nous intéresser, parce que ça peut s'appliquer à la mémoire collective. À l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, c'est être malade. C'est être malade, c'est souffrir que d'être obsédé par son passé. dans un essai qui s'appelle « Deuil et mélancolie », Freud montre que la mélancolie, c'est une conduite autodestructrice, c'est la conduite autodestructrice de celui qui est incapable de se déprendre de la perte subie, qui est incapable de se déprendre de la mort d'un être cher. Le mélancolique reste bloqué sur cette perte. Il ne peut pas l'admettre. Il voudrait que son malheur n'ait jamais existé. Et il souffre de ne pas pouvoir le supprimer. Faute d'entrer, vous voyez, dans un travail de deuil, eh bien, il répète compulsivement le traumatisme qu'il a subi. Eh bien, ce qui est vrai de la pathologie individuelle est vrai, dans une certaine mesure aussi, de la pathologie collective. La solution ici n'est certainement pas d'effacer le passé, de faire comme s'il n'y était pas advenu, mais la solution est d'entrer dans un travail de mémoire qui permette de se distancier du passé, non pas d'oublier, de se distancier du passé, et de cette manière, on cesse d'y être rivé, on cesse d'en être obsédé, et on peut enfin s'ouvrir à l'avenir. Alors,
mesdames, messieurs, les enfants, veniez découvrir trois magazines pour les petits. Et
pourquoi je préfère parler de travail de mémoire plutôt que de devoir de mémoire. Oui, là, je serai très rapide sur ce point-là. Parce que, d'une part, pas plus qu'on ne peut prescrire l'oubli, on ne peut pas prescrire non plus la mémoire. Les injonctions au souvenir sont stériles. Et puis, aussi, et ce qui pose problème, c'est qu'elles risquent de donner lieu à une nouvelle forme d'instrumentalisation de l'histoire au service d'une mémoire officielle. Qui prescrit le devoir de mémoire ? C'est ça tout le problème. Alors, je ne dis pas que la question se règle uniquement de cette manière-là, mais c'est vrai que ça pose problème. Je n'aborderai pas ici la question des lois mémorielles, très importantes, mais qui ne sont pas toutes exactement du même type non plus. Ce serait trop long. Et j'en viens à ma dernière question. Quel nouveau rapport au passé implique le rôle important que nous accordons aujourd'hui à la mémoire ? Eh bien, justement, si on fait un travail de mémoire, eh bien, nous n'appréhendons plus le passé comme le voulait Ernest Renan. Je reviens à ce que disait Ernest Renan dans « Qu'est-ce qu'une nation ?» Que disait Ernest Renan ? Que les membres d'une même nation se rapportent à leur passé, à un passé idéalisé dont ils ont exclu les pages noires. Et c'est comme ça qu'ils restent soudés, en quelque sorte, et qu'ils continuent de vouloir vivre ensemble. Donc le passé, je cite les formules d'Ernest Renan, il est comme la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. Il est un héritage que l'on a reçu indivi. Et donc, il faudrait justement oublier les épisodes honteux. Eh bien, si on prend au sérieux l'idée d'un travail de mémoire, le travail de la mémoire exige tout au contraire que nous nous confrontions au passé, que nous cessions toute adhésion aveugle et irréfléchie à un passé mythifié, fragmentaire, que nous cessions aussi de nous rapporter à la nation à laquelle nous appartenons comme à une transcendance, et que nous acceptions de regarder en face, justement, les pages noires de notre histoire. Comme le dit Henri Rousseau, alors dans un livre, c'est son dernier livre, c'est de 2016, qui s'appelle « Face au passé », le passé n'est pas seulement un lieu d'où l'on vient, mais il se présente comme quelque chose qui se trouve devant nous, comme un problème à résoudre, comme un obstacle à surmonter, presque comme un adversaire à combattre. Désormais, dit-il, il faut faire face au passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? d'abord mieux le connaître, et puis reconnaître, plutôt que de, je dirais, de les taire, reconnaître ces zones d'ombre. Il s'agit là d'un affrontement qui est tout le contraire d'une allégeance aveugle à un passé mythifié. Et cet affrontement implique un travail de mémoire qui est aussi un travail civique par lequel les citoyens s'interrogent sur leur représentation spontanée du passé en s'appuyant sur des connaissances historiques et puis en débattant les uns avec les autres. Comme on l'aura compris, ce travail ne peut pas se faire dans n'importe quel type de régime politique. Certainement pas, en tout cas, dans des régimes où le pouvoir politique dicte une mémoire officielle, impose une histoire officielle, mais seulement dans le cadre d'une démocratie, où l'on peut parler du passé, on peut parler de la souffrance qu'il a infligée, et on peut donc de cette manière aussi s'en détacher. On peut débattre du passé, et en débattant du passé, bien, les citoyens se rendent actifs et participent aussi, du même coup, à l'avenir, à la construction de leur propre nation. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et sur vos questions.
Ce ne sont pas des questions, mais j'ai vécu, à travers tout votre exposé, à chaque moment, j'ai vécu ce que vous, par des détails, par des souvenirs très très précis, tout ce que vous avez vécu. Alors, pour les avoir vécu personnellement pendant la période 40-45, et les avoir vécu à travers mon mari qui était résistant FTP, un peu plus âgé que moi, je suis déjà pas mal. Donc, j'ai vécu, et à travers des discussions familiales, l'histoire de la mémoire collective dans les années 80 ou plus, je dirais, ou même avant, était déjà un problème. Par rapport à tout ce qu'il avait, lui, connu de toute cette époque-là. Donc, moi, j'ai donc vécu à travers lui aussi. Alors, les détails, je ne voulais pas à chaque moment que j'ai pu raccrocher. Quand vous dites, par exemple, STO, deux détails familiaux, parce que mon père, par exemple, qui était de la guerre 14-18, donc lui ne voyait pas le conflit de 40-45 de la même façon. Lui, c'était du poche, c'était de l'œil, bon, les verres, les olivichons, tout ce que vous voulez. Mon mari, c'était pas la même chose. Mon mari, c'était le nazisme, le fascisme, tout. Donc c'était complètement différent. Alors mon père, ah oui, dans la famille, il y a un de la famille qui est allé au STO. Mon père, horrifié.
Ah oui.
Parce que c'était une forme de collaboration.
Encore que service travail obligatoire.
Voilà, c'était obligatoire, je sais bien, mais de le fait de l'accepter, oui, alors que les jeunes que mon mari connaissait.
Il y en a beaucoup, ils sont partis dans le maquis.
Exactement, et bien c'était là où l'on. Voilà. Mon mari, mon père, à ce moment-là, on a toujours voulu à ce membre de la famille qui n'était pas parti de l'autre côté.
C'est ça qui a grossi les rangs du maquis, oui, d'ailleurs.
Et ensuite, des décennies plus tard, mon mari avait vu dans le d'obsèques, déporté du STO. Alors, vous voulez dire. Vous voyez, je vous cite cette anecdote-là pour vous dire qu'à chaque fois que vous avez voté quelque chose,
oui.
Plein de flashs. Et alors, la mémoire collective, si vous voulez, on en a discuté, évidemment en famille, mais bon, c'était déjà un problème pour mon mari.
Alors, ça me fait penser à une chose, c'est que, alors, la mémoire collective, d'abord, il faudrait peut-être faire une distinction entre la mémoire officielle, nationale, celle qui est politiquement admise, et la mémoire collective des groupes. C'est déjà pas tout à fait pareil.
Voilà.
C'est vrai. Bah, je prends l'exemple des Juifs. La Shoah. Voilà. Et eux, ça n'est admis, on commence à en parler, et vraiment, ça devient le cœur même du sujet, hein, dans les années 80, vraiment tard. Et on ne peut pas dire, il ne s'agit pas de dire non plus qu'avant on n'en parlait pas, mais on n'en parlait que chez les Juifs. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, pour eux. Parce que en plus au départ, il ne s'agissait que de célébrer les résistants, ceux qui avaient combattu. Hein, c'était donc là, il y a une sacrée évolution, hein, pour d'autres. Et comme vous disiez, la différence entre la guerre 14-18 et la guerre 39-45, la figure de Pétain a joué un rôle considérable, parce que c'était le père.
Le père de la victoire.
Le père de la victoire. Hein. C'était le héros, c'était l'homme incontesté, l'homme qui protégeait. Bon, il y avait tout ce discours-là. Hein. Et puis, les gens ne voyaient pas l'idéologie qu'il y avait derrière, hein. La révolution nationale. Bon. Ils voyaient le brave homme qui était prêt à se dévouer.
Une grande voisine se réjouissant, parce que quand Pétain va arrêter la guerre, mon fils
rapport. Bien sûr. C'est certain.
Et tu as cité Paxton, c'est vrai qu'il a, produit pas mal de pendules à l'heure.
Ah ben c'est le premier livre. Hein.
Oui, surtout sur Pétain.
Oui, oui, l'histoire de Lucie. Et d'après les historiens d'aujourd'hui, au fond, bon, il y a des choses à précisé, mais son livre est tout à fait remarquable. Et je pense qu'il a travaillé sur une documentation. Comme les archives étaient fermées en France, il a dû passer par l'étude des archives allemandes, souvent.
Il est allé jusqu'à calculer la ration calorique des différents peuples européens pendant la guerre. Et là, il s'est aperçu qu'en France, la ration était en dessous des 1500 calories jour. Donc, Pétain, bouclier du peuple français.
Bah oui. Bah oui. Oui, bon, il a très vite entré dans la collaboration. Hein. Bien plus. Enfin, disons qu'il a. Il a avancé, enfin, largement devancé les vœux des Allemands. En fait, il allait bien au-delà de ce que les Allemands demandaient. Les Allemands, au début. Ne lui demandez pas spécialement de persécuter les Juifs au départ, pas tout de suite. Voilà, c'est assez, assez certain. Non, il y avait. Ça, c'est des choses dont on s'est aperçu. Après.
Mais, oui finalement, en fait, quand on regarde toutes les phases, en fait, comme disait Mitterrand, il faut donner du temps au temps. C'est-à-dire que c'est la chronologie. Avec des historiens qui ont modifié leur approche, qui a fait que la mémoire collective s'est modifiée. Quoi. C'est du temps.
Alors, est-ce que c'est les historiens seulement qui ont apporté, je ne sais pas. Ils font partie du
processus.
Ils font partie du processus. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi d'abord un changement de génération. Ouais. Alors, on passe à la troisième phase. Hein, troisième, après 68, enfin, la mort de De Gaulle. C'est-à-dire la figure tutélaire de De Gaulle, quand même. Jouait un rôle considérable. Hein, hein, c'était oui, bien sûr, bien sûr. Et puis bon, il y a un État assez fort quand même, hein, et qui imposait tout de même une certaine vision, hein, du passé. Il était, enfin, de très très vite, le souci de De Gaulle, c'était de reconstruire l'unité de la nation. Il savait parfaitement qu'il fabriquait un mythe. Mais bon, voilà, c'était. Et les résistants n'étaient pas tellement valorisés.
De vous l'avez dit, le peuple français n'a pas besoin de vérité, il a besoin d'un espoir.
Eh bien, moi, je trouve que ce que dit De Gaulle, ça se rattache parfaitement à ce que dit Renan. C'était les hommes de cette époque-là pensaient qu'au fond, une nation a besoin de mythes. Et qu'au fond, elle a les hommes, je dirais, se rapportent à leur passé comme de manière filiale, comme une sorte de rapport filial à la nation. La nation prime sur la République. Hein. Voilà, c'est la nation, c'est la transcendance, quoi. Et ça, c'était. Alors, chez Renan, c'est très intéressant comme texte, parce qu'il est républicain, tout de même. Mais. Il est républicain, mais. Pense aussi qu'il n'est pas non plus vraiment démocrate.
Non,
hein, considère que.
Mais la République était jeune, elle pouvait passer pour un avatar.
grand texte. Bon, mais c'est un texte superbe, hein. Enfin, c'est très bien. Oui.
Moi, j'avais plusieurs réflexions plutôt. Maintenant, on parle du devoir de mémoire au-delà de la guerre de 40. Oui. Il y a toute l'histoire de la colonisation qui est particulièrement présente actuellement.
Ah, oui.
Et ici au Havre aussi, là, il y a déjà des travaux qui sont en cours de route pour mieux comprendre ce passé-là.
Tout à fait. Oui, alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que sinon ça aurait été très long.
Voilà, mais bon, je
l'avais mais les lois mémorielles, etc., voilà. etc. Alors, ça pose des... Enfin, c'est... Là, il faudrait presque deux heures.
Une autre conférence.
Tout à fait. Mais disons que ce qui ouvre la voie, c'est tout de même la mémoire juive. Hein, c'est ça qui va ouvrir la demande de reconnaissance des autres victimes. Quoi. Mm-hmm. C'est vrai.
Alors c'est un processus historique.
Voilà, c'est un processus
nouveau. Dans l'histoire, dans le temps qui passe.
Tout à fait. À partir du moment où on s'est dit, bon, on ne peut pas. Il y a ce qui s'est passé. Il y a l'histoire d'Algérie hein, qui joue la colonisation, effectivement. Et là, c'est très présent, hein, franchement. Hein, on sent bien. Hein. Bon, et d'ailleurs, parfois, il y a un télescopage entre les différentes mémoires. L'affaire algérienne, elle a réactivé une certaine manière. L'histoire de Bichon. Hein, parce que l'autre jour, je disais que parmi les résistants, il y avait des anciens résistants qui étaient pour l'Algérie française, comme Georges Bidault. Et il reprenait l'idée qu'au fond, De Gaulle, il faisait comme Pétain. Il lâchait l'Algérie française, c'est l'esprit d'abandon.
C'est ce que mon mari disait, qui a été rappelé en Algérie.
Voilà.
Donc, il était dans de l'autre côté
voilà.
Par rapport à son attitude pendant la guerre en tant que résistant. Il se trouve rappelé comme officier en Algérie. Il fait exactement l'inverse de ce qu'il pouvait être. Il en est revenu malade.
Oui, ça c'était. Donc, il y avait ce discours, le discours. Les ennemis, enfin ceux qui étaient pour l'Algérie française et ceux qui étaient. Bon, au contraire, la libération d'Algérie, se référaient les uns et les autres à la résistance. Les uns pour dire c'est un esprit d'abandon qui fait qu'on lâche l'Algérie, la France lâche l'Algérie, et puis les autres, au contraire, disant que faisant valoir au fond le combat contre l'oppression, etc. Donc il y avait, vous voyez, les références sont toujours réinvesties en quelque sorte. Au passé, elles sont toujours réinvesties, selon selon la conjoncture. Mais effectivement, maintenant, il y a l'histoire de la colonisation, il y a l'histoire de l'esclavage. Alors, il y a eu des lois. La première loi mémorielle, c'est la loi Guesso, mais qui est une loi. Là, il faudrait vraiment regarder ça de près. Qui est une loi qui condamne surtout le négationnisme, qui est une forme, au fond, d'antisémitisme. Et qui ne se mêle pas trop de se prononcer sur la question historique. Mais après, malheureusement après, il y a eu des lois mémorielles où là, le juge ou le législateur se pique de faire d'histoire. Ça devient plus embêtant. Ça devient plus embêtant. Parce que la loi Taubira, par exemple, l'esclavage, la traite négrière, elle limite l'esclavage uniquement à la traite négrière, faite par les Européens. Or, c'est pas évident, il y a tout un mythe d'esclavage ici et ailleurs. Donc, ce sont des lois qui peuvent avoir des effets pervers et qui peuvent limiter le travail d'investigation des historiens. Pour ça, vous avez des historiens qui ne sont pas suspects d'être. Réactionnaires spécialement qui se sont rebellés contre l'intervention excessive des législateurs en matière de loi mémorielle. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Mais là, je vous dis, j'évoque ça très superficiellement.
Il y a aussi un autre effet pervers de cette modification de ces lois, c'est l'orientation vers une société victimaire, parce qu'on est dans une société victimaire maintenant. C'est-à-dire que tout le monde est victime de quelque chose.
Alors, c'est ça, c'est qu'après...
Alors, on ne comprend plus les gens...
Le problème, c'est qu'après, il y a une sorte de concurrence mémorielle.
Oui, c'est ça, voilà.
Avec,
alors, chacun rajoute...
Oui,
oui,
c'est ça. Et au lieu que ça contribue à libérer les victimes de leur... Justement, de leur souffrance, et de reconnaître leur tort, bon, ça, à la limite, qu'il y ait une reconnaissance des torts, eh bien, ça devient une sorte de faire valoir l'identité. Et là, effectivement, c'est un des effets pervers.
On voit bien dans les anciennes colonies, certains partis politiques cultivent cette société victimaire aux Antilles, aux Nouvelles-Calédonies, on voit bien, hein. On l'entend, ça.
C'est sans doute.
C'est terrible, ça.
Sans doute. Et en même temps, oui, enfin, c'est complexe.
Oui, c'est complexe. Ils ont un peu raison, mais d'un autre côté, on peut pas non plus, une société ne peut pas vivre
non.
dans la victimologie permanente.
Non, non et puis jusqu'où on remonte.
Et jusqu'où on va.
Jusqu'où on remonte. Et puis alors, regardez le problème. Parce que, au nom de l'égalité, on dit, y a pas de raison que... Ah, on s'occupe de réhabiliter, enfin de reconnaître les torts qu'on a à l'égard de ce type de victimes. Et il faut que ce soit vrai pour tout le monde. Mais alors, là, forcément, vous êtes coincé, parce que vous le vouliez ou non, vous allez forcément privilégier les uns au détriment des autres. Enfin, c'est dans la pratique. Vous n'allez pas pouvoir satisfaire cette exigence d'égalité. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Vous êtes dans des histoires absolument inextricables. Bon, ça, c'est vrai, ça, c'est les effets pervers des lois mémorielles.
Et en même temps, quand rien n'est fait, parce que je viens de lire le tout petit livre ou manifeste de Markevitch, qui est le traducteur de Tolstoï et de...
Le grand traducteur russe.
Et de Dostoïevski, et qui a écrit un tout petit texte il y a quelques semaines sur l'Ukraine.
Ah.
Si, parce que... Moi, j'y pensais tout le temps. Et si l'Ukraine sauvait la Russie,
il l'a instituée. Oui, j'ai entendu.
Et c'est absolument passionnant aussi, parce que lui, il dit qu'il n'y a pas eu... Il y a eu le procès de Nuremberg, mais il n'y a absolument rien eu du côté des Russes. Il n'y a pas eu du tout de reprise de l'histoire, de tout le régime soviétique et des morts qui ont eu. Il n'y a pas eu ce jugement. Et il dit que... Maintenant, il y aura quelque chose qui pourra...
Il m'a semblé tout de même qu'il y avait une différence, par exemple, entre la politique de Lénine et celle de Staline, à ce niveau-là. Je ne suis pas au courant, mais que Lénine reconnaissait les nationalités et que Staline...
C'est plus par rapport aux morts, parce qu'effectivement, on voit bien que le procès de Nuremberg, et puis après les procès qu'il y a eu en France, que vous avez cités, ils ont participé à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse... dire qu'il y avait une mort d'homme, meurtre, et non pas mettre un couvercle sur l'histoire pour après en faire un mythe.
Ah ben, de toute façon, on voit bien à travers les conflits actuels qu'à chaque fois, ce qu'on joue, la mémoire est un enjeu.
Voilà.
On a plein d'exemples. Poutine, c'est la grande Russie.
Voilà,
un passé mythifié. Là. Toutes les communautés politiques sont tentées de recourir à un passé souvent mythifié.
Il y a le fait que la Russie n'a pas connu la démocratie, donc elle ne peut pas faire... ce travail-là, parce qu'on est passé d'un régime tsariste à un régime soviétique communiste.
Et en même temps, c'est un travail même dans les démocraties qui n'est jamais...
Qui n'est pas fini.
C'est pas ça. Parce qu'elle est irréconciliable, que vous le vouliez ou non. Oui. Il y a des choses où on n'arrive pas à... Déjà qu'on en parle, qu'on le dise, qu'on accepte une certaine dose de dissensus aussi. Qu'on trouve absolument faire consensus, c'est pas possible, c'est pas très bon.
Normal. C'est accepter les différences.
Absolument, et même de désaccords profonds. Inévitable. Bon, sur la question des rapports entre l'Algérie et la France, la guerre d'Algérie, c'est du travail. Du travail. Mais déjà, les archives ne sont pas accessibles.
Ah, ça y est, elle doit être ouverte en partie.
En France, non, pas en Algérie.
En Algérie, zéro.
Ils ont confisqué. Il y a une rente mémorielle, ouais. Comme il y a une rente pétrolière.
Oui, c'est ça,
il y a
une
Donc, c'est difficile. Très difficile. D'autres questions ou d'autres remarques?
Le récit national est souvent raconté dans les livres scolaires. Et là, on voit que.
Ah oui, ah bah, l'histoire qu'on a apprise enfant.
Je me souviens des livres en France.
Ah oui.
On glorifiait vraiment.
Alors, il y avait tout de même des connaissances, mais tout ça était emballé dans un récit.
Oui, on glorifiait le pouvoir civilisateur de la France.
Ah bah oui.
On ne parlait pas des colonies en tant qu'employeurs de matières premières.
Non, c'est clair.
On était là pour civiliser les sauvages.
C'est sûr. C'était nos ancêtres les Gaulois.
Est-ce que les historiens peuvent rectifier vraiment? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de rectifier la vérité?
Le gros problème, c'est que.
C'est dur.
C'est difficile, oui. Bah, l'histoire, en tant que discipline, une discipline critique, on ne peut pas se laisser aller.
Ce n'est pas une science exacte.
Non, mais enfin, il y a tout de même une exigence d'objectivité qui fait que l'historien, tout de même, ne se contente pas d'élaborer des mythes. Enfin, je veux dire, mais bon, enfin, c'est vrai que l'histoire telle qu'elle a été enseignée, c'était une histoire qui était là pour construire un récit national.
Oui, c'est ça.
C'était ça sa fonction, essentiellement. Hein.
Avec pas comment ça se passe dans les livres scolaires
actuellement. Alors les livres scolaires actuellement, ils ont fait travailler mes petits-enfants pendant la période Covid, ils étaient confrontés en histoire notamment. Par un exemple, Marie-Antoinette n'est pas très bien vue dans le livre d'histoire. Ça manque un petit peu de. On pourrait quand même.
Il y a trop de choses. C'est un peu chanté.
Elle est vraiment. C'est l'histoire des. Ils n'ont plus de pain, de leur donner des. Gâteaux,
mais c'est aussi
ça, on en est encore là. Quoi.
L'histoire moderne est aussi une histoire qui est moins centrée sur les grands personnages.
Oui, c'est vrai. Mmh.
Ouais, aussi ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue sociologique, un point de vue économique. Avant, c'était quand même les grands personnages. Oui. C'était quand même un peu limité. Mais bon, pour des enfants, ça marque. Ça a quand même commencé par les Gaulois. Et puis se terminer par on va libérer l'Alsace et la Lorraine. Oui, alors là, c'est une histoire. L'histoire enseignée, c'était une histoire ouvertement idéologique.
Ah oui, pas de nickel, pas de nickel.
Tout à fait. Bah, en même temps, quand il y a eu l'Union européenne, au début, il y avait un peu cette tentation de faire une sorte de d'histoire. Un peu glorifiant l'Europe, c'est un peu la même tentation.
C'est Charlemagne.
Oui, par exemple. Ouais.
Bah. Mais c'est quand même étonnant parce que on a l'impression, on pourrait penser que la connaissance globale des citoyens avançant au fil du temps. En vous disant qu'on pourrait aller vers une Europe fédéraliste, et vous avez des mouvements politiques que je ne citerai pas, qui font machine arrière avec la nation. C'est ça que je.
Oui, enfin, une certaine version de la nation, parce qu'on peut avoir une conception républicaine de la nation qui n'est pas dans ce sens.
Enfin, une partie un peu, pas majoritaire, mais presque, qui pousse à la nation. Revenons sur la nation.
Une conception ethnique.
Voilà, c'est ça, ethnique. Oui.
Mais qui n'est pas française.
Non.
Parce que, au moins, Renan, là-dessus, était clair. Oui. C'est qu'il s'opposait à la conception allemande de la nation, qui faisait de la nation, au fond, une sorte d'identité ethnique. C'était par ses racines, par le sang. On était allemand. C'est un destin. Vous savez ce que, pour les Français, la conception républicaine de la nation, c'était l'adhésion volontaire des citoyens à la nation, le fait de vouloir vivre ensemble, qui était le plus important, même s'il y avait évidemment une dimension du passé à prendre en charge. Alors, il y avait déjà deux conceptions. Et, l'Alsace et la Lorraine, par exemple, dit Renan, quand ces deux provinces ont été reconquises par les Allemands en 1871, c'était quand même deux régions qui avaient un dialecte allemand, qui était tradition allemande. Et si on définit la nation en termes d'ethnie, oui. Bah les Allemands avaient raison. C'était plus des régions allemandes qu'autre chose. C'est tout d'où l'enjeu. Il y avait des députés lorrains qui avaient souhaité que les populations soient consultées et qu'elles puissent dire leurs mots, puis que les gens puissent dire leurs mots et dire à quel pays ils voulaient appartenir, ou à la France, ou à l'Allemagne. Donc, c'était le principe d'autodétermination qu'on faisait jouer. Mais les Allemands refusaient ce principe-là. Oui, les Allemands, les Alsaciens ne sont pas français. Ils n'ont pas de vue ethnique. Non, si on parle en termes de racisme, ils ne sont pas français.
Ne faut-il pas quand même un récit national pour que le maximum de personnes vert.
Alors, c'est le problème. Mais, et quel que soit, à quelque niveau que ce soit une nation ou une collectivité, de tout type de collectivité, elle tend à fabriquer des mythes pour unifier les membres. Hein. C'est certain. Les commémorations, ça sert à ça. Il faut une sorte de sacré qui permette aux hommes de vivre ensemble, de se reconnaître comme membres d'une même nation. Et ça peut se jouer au niveau d'une nation, ça peut jouer au niveau, je sais pas, bon, Athènes, c'était une chose. Les dieux grecs, c'était des dieux civiques, hein, c'était des dieux qui fédéraient les hommes. Hein. Bon, si jamais un jour il n'y a plus de nation, c'est autre chose, une fédération, le même problème se posera. Bah, c'est pas spécialement. Voilà. Est-ce qu'on va peut-être clore, non ? Merci à vous.
Merci. Merci.